de relief particulier d'un ou de deux dons. Souvent, les dons sont jumelés, parce qu'il y a des dons de l'intelligence et des dons affectifs. Alors, les dons de l'intelligence et les dons affectifs, ordinairement, s'exercent parallèlement. Et alors, ils sont liés les uns aux autres. Et c'est ce qui fait telle manière de regarder le mystère du Christ. Telle manière d'être uni au mystère du Christ. Pouvez-vous poser la question ? Quel est le don dominant d'un saint Bruno ? Ça, c'est vous qui devez me répondre, c'est pas moi. C'est. Quel est le don dominant d'un saint Bruno ? C'est... Quoi ? Mais parmi les sept, ils sont connexes. Hein. Les sept sont présents, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a quand même un qui domine. Toujours. Sûrement sagesse et intelligence. C'est les dons de contemplation, c'est intelligence et sagesse. Et alors il y a plus ou moins sagesse et intelligence. Les dons de l'apôtre, c'est la science. Le don de crainte est fondamental chez tous. Mais il peut se développer d'une manière particulière chez tel ou tel. Ça, c'est sûr. Alors, le don de conseil, le don de force et le don de piété, c'est plus le don des actifs. C'est très curieux, du reste. C'est très beau, ça, parce que ça fait comprendre la manière dont Saint-Esprit sculpte les pierres hein, du temple de l'Esprit-Saint. Alors, le Saint-Esprit, il est multiforme. Hein. Il n'a pas qu'une seule manière. Tous les saints donnent un reflet de la totale sainteté du Christ, de la totale sainteté de Marie. Marie et le Christ ont vécu en plein, le Christ en premier lieu, Marie ensuite ont vécu en plénitude des sept dons. Chez les saints, il y a un rattachement au mystère du Christ particulier, c'est pour ça qu'il y a les sept églises. Quand vous regardez les sept églises de l'Apocalypse, vous pouvez comprendre les sept églises en fonction des sept dons. Et chaque église représente un don particulier. L'église d'Éphèse, ça c'est sûr, l'église d'Éphèse, ça représente le don de sagesse, le don de Cédès Sapientiae, Marie. Oui, et c'est le don de la contemplation, c'est sûr. Alors, chacune, et c'est ça, je crois, qui nous donne la théologie, si vous voulez, de ce que représente cette Église. Il est évident que c'est vrai dans les familles religieuses que les dons s'harmonisent différemment. Ils sont tous toujours unis, hein. Donc tous ont les sept. Tous ont les sept. Le Père Kolb a les sept. Mais quel est le don particulier que le Père Kolb nous met en lumière? C'est très beau, du reste, ça. C'est une très belle interrogation de théologie mystique, vous voyez, de regarder les grandes manières dont les grands saints ont vécu des béatitudes évangéliques et ont vécu des dons du Saint-Esprit. Alors, c'est ce que je vous avais dit déjà, je peux l'ajouter uniquement ici. Il est évident que les luttes du démon, que les grands assauts du démon, c'est de supprimer l'exercice divin des dons du Saint-Esprit. Parce que le démon ne peut pas... Et que le démon essaie de faire la caricature des sept dons. Et je crois qu'on peut dire que les sept grandes idéologies modernes sont les caricatures des sept dons. Oui. C'est de supprimer la plénitude de l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. C'est de supprimer la plénitude de la charité. Alors à ce moment-là, on comprend comment les sept idéologies vont mettre un déséquilibre foncier dans l'homme pour exalter toujours l'intelligence en supprimant l'amour. Tandis qu'ici, l'amour est présent dans tous les dons du Saint-Esprit. C'est l'amour qui fait la connexion des dons du Saint-Esprit. C'est la charité. La charité, je dis, elle a sept formes. C'est très beau de voir ça. Les sept flammes de la charité. Les sept flammes de la charité, c'est les sept dons du Saint-Esprit. Et c'est ça qui vient transformer notre cœur. Hein. C'est notre cœur qui est transformé. Notre cœur en profondeur est transformé par ces sept flammes. Oui. Allez, je vais ça les nommer. Les sept idéologies. mais cette idéologie en opposition aux dons du Saint-Esprit. Les caricatures des dons du Saint-Esprit. Caricature de la sagesse. Freud. Ça, c'est bien évident. C'est, l'équilibre est en nous alors que l'équilibre est au-dessus de nous. Vous voyez ? Caricature du don de crainte, Sartre. Caricature du don de science, le positivisme, Auguste Comte et toutes ses conséquences. Caricature du don d'intelligence, le néo-hégélianisme. Caricature du don de conseil, l'évolutionnisme pris comme absolu. Caricature du don de force, Nietzsche. Caricature du don de piété, Marx. Oui. Il y a le petit, c'est chaque fois on voit l'aspect hein, caricatural 666. Ce n'est plus l'homme sous la mouvance du Saint-Esprit avec les sept dons du Saint-Esprit. L'anthropologie chrétienne, elle a sept dimensions. Ce sont les sept pierres d'attente aux dons du Saint-Esprit. Nous avons en nous sept pierres d'attente aux dons du Saint-Esprit. Nous attendons d'être pris par l'Esprit-Saint. Et l'anthropologie chrétienne, elle ne peut pas avoir, ne pas avoir ces sept dimensions. Tandis que le démon vient supprimer la dimension de l'amour, et alors vous avez 6, 6, 6, toujours. C'est les anti-oppositions. Béatitudes évangéliques. Mais ça, c'est pour vous donner un vaste tableau et une vaste synthèse. Hein, c'est important. Pour que, quand on voit quelque chose, on situe tout de suite. Hein, c'est important au point de vue de notre vie divine. Hein. Situer tout de suite l'étude de la charité. Ah oui, nous étudions la charité. Mais nous voyons très bien que la charité, elle est le nœud. Parce que tous les dons du Saint-Esprit jaillissent de la charité. Toutes les vertus infuses jaillissent de la charité. Et la charité informe toutes les vertus. Elle informe toutes les vertus. C'est-à-dire qu'elle leur donne leur signification profonde. C'est la charité. C'est la charité qui est le cœur de notre cœur. Hein. Le cœur profond, c'est la charité. Qui s'exerce divinement grâce au don de sa chance.
Ça va être l'heure, hein, je crois. C'est pas l'heure ? Mais s'il y a encore une question, je veux bien, j'ai encore 3 minutes.
Il aurait fallu en fait commencer par le traité de la grâce pour partir du sang.
Oui, oui, vous savez, ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'on peut commencer de la charité pour... Vous savez, tout est dans tout. Hein, vous voyez ? C'est très différent avec le point de vue philosophique où il y a un ordre. En théologie, puisque c'est un mystère, là vous tirez dessus. Venez, alors on pourrait dire, voyez, il faudrait commencer par le traité du Christ, puisque tout vient du Christ. C'est le Christ qui est le modèle. Il faudrait commencer par le traité de Marie, c'est vrai, Marie est le modèle. Et puis, alors, la foi, l'espérance et la charité, la grâce. Je suis d'accord, mais ça s'éclaire mutuellement. Moi, je ne gêne pas tellement. Vous voyez, ça s'éclaire mutuellement. Alors, les dons, le tout, c'est de comprendre, quand on voit les dons du Saint-Esprit, oui, ah, l'exercice divin des vertus théologales, l'exercice divin des vertus infuses. Et les vertus infuses elles-mêmes reçues dans les vertus acquises, pour permettre un équilibre de plus en plus profond. Mais c'est sûr, logiquement, vous diriez, c'est la grâce, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord. C'est la grâce qui est fondamentale. Mais la charité, comme on en vit tout le temps, il faut la voir tout le temps. Vous voyez ? Et c'est vrai que, d'une certaine manière, vous voyez, les propriétés éclairent la source. Et donc la charité éclaire ce que c'est que la grâce. Comme la qualité éclaire ce que c'est que l'ousia, la substance. Alors c'est pour ça que la charité, c'est un grand réflecteur qui éclaire tout. Bon.
Vous pouvez dire comment simplement les étudie, comment il traite les dons par rapport aux vertus.
Saint Thomas étudie les dons après chacune des vertus. Donc, il n'a pas un traité particulier des dons du Saint-Esprit. Mais après le traité de la foi, au terme du traité de la foi, nous avons le don d'intelligence et le don de science. Au terme du traité de l'espérance, le don de crainte. Au terme du traité de charité, le don de sagesse. Au terme du traité de prudence, le don de conseil. Au terme du le don de force et le don de justice. Et la vraie tempérance, vous voyez la petite tempérance par derrière, n'est-ce pas, elle est portée par l'espérance. Saint Thomas étudie deux fois les dons du Saint-Esprit. Il étudie la synthèse des dons du Saint-Esprit dans la prima seconde, et il étudie les dons du Saint-Esprit en particulier dans la seconda seconde, c'est-à-dire après chaque vertu. Tandis que dans la prima seconde, il étudie les dons du Saint-Esprit en fonction de la grâce, en fonction de la charité. Et alors il les divise en dons. Saint Thomas prend des divisions différentes, en dons actifs et contemplatifs, en dons affectifs et intellectuels, on peut le faire. Mais tous les dons sont toujours affectifs, puisqu'ils proviennent tous de la charité. C'est toujours une expérience affective, les dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est une expérience mystique. Et je crois qu'on doit réserver le terme mystique à l'expérience des dons du Saint-Esprit. Il y a une expérience. Le point de vue mystique n'est pas seulement contemplatif. Le point de vue mystique est aussi actif. Il y a une expérience mystique du don de force. Vous voyez ? Vous voyez ça dans l'écriture, enfin, on voit très bien. Samson, c'est une expérience merveilleuse du don de force. Hein. Contemplatif, c'est plus difficile à trouver dans Samson l'exemple de le modèle de la contemplation. La mère de Samson a un conseil merveilleux, parce que dès qu'elle a, elle court avertir son mari, donc ça c'est le conseil. N'est-ce pas ? Donc, on voit, et à travers toute l'écriture, vous trouveriez le don du Saint-Esprit. Ce serait très beau du reste, parce que ça, ce serait vraiment la théologie biblique. La théologie biblique consisterait à, en relisant toute l'Écriture, de voir l'action de l'Esprit Saint sur tous ces hommes. Voir comment Abraham, sous la motion du Saint-Esprit, fait telle ou telle chose. Ça, c'est la théologie mystique. C'est la théologie biblique. Parce que vous voyez l'illustration de tout cela. Tout cela, on l'a tiré de la Bible. Mais c'est tellement tiré de la Bible qu'on ne voit plus, hein, nous. Alors nous devons le replonger, nous, et le reprendre dans la Bible, et retrouver alors à travers la Bible tout l'exercice des dons du Saint-Esprit. L'Esprit Saint travaille l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est mu par l'Esprit Saint. L'Église est mue par l'Esprit Saint. Et à travers les saints, vous voyez l'œuvre de l'Esprit Saint. Et à travers les saints, vous voyez tel ou tel. Vous voyez, un saint François d'Assise, c'est évidemment c'est le don de crainte. C'est la pauvreté avant tout. C'est avant tout ça, c'est le point de vue du don de crainte. Un saint Jean de la Croix, c'est le don de sagesse, je crois. Comme saint Bruno. Une petite Thérèse de l'enfant Jésus, c'est le don d'intelligence. Très particulièrement, c'est le don d'intelligence. C'est la béatitude des cœurs purs. Oui. Et avant, on sent bien qu'on découvre à travers un saint Louis, c'est le don de conseil. Un saint Benoît, c'est le don de conseil. C'est la différence entre la vie monastique et la vie contemplative. Vous ne pouvez pas dire que c'est le don de conseil chez saint Benoît, ça c'est sûr. C'est le don de conseil, c'est la discrétion, c'est le don de conseil. Le don de force, je vous dis, c'est les martyrs. Les martyrs, c'est le don de force. Toujours. Mais avant, parce qu'ils préparent leur avant, il peut y avoir des contemplatifs martyrs. Mais le don de force et manifester spécialement pour ceux qui seront des témoins. Des témoins au milieu des luttes. Je me demande, c'est pas le don de piété, le don de force. Vous voyez, moi, je mettrais les deux. C'est le don de piété. Au fond, il y a un tel amour de la Vierge Marie. C'est vraiment le don de piété. On ne peut pas dire que c'est le don de la contemplation. On ne peut pas dire que c'est la sagesse. C'est pas ça qui domine. C'est beaucoup plus le don de piété. Le don de piété, le don de force, il a une force prodigieuse, ce qui permet d'être parti. C'est-à-dire, toute sa vie, il a montré cette force. Et le don de piété. C'est ça avant tout, moi, il me semble. Je mettrai ça avant tout, le père. Vous voyez ? Comme saint Grégoire de Montfort, c'est le don de piété. Vous voyez ? Les saints très liés à Marie, c'est le don de piété. Il y a quelque chose de très particulier qui se développe chez les saints qui sont liés à Marie, c'est le don de piété. Quelque chose de spécial, d'intimité, de secret, vous voyez. Parce que nous, nous mettons instinctivement le don de sagesse au-dessus de tout. Mais ils sont tous en... Ils sont tous absolus, les dons. Hein. C'est pas plus. C'est la sainteté du don de piété, la sainteté du don de sagesse s'exprime différemment. C'est la sainteté. C'est l'Esprit Saint qui, à travers le... Alors évidemment, il y a un certain ordre objectif que nous devons considérer, que le don de sagesse, c'est évidemment l'exercice divin de la charité, il y a bien de plus grand. Et ça, c'est la contemplation.
octobre 1982, deuxième conférence.
On m'a demandé de préciser, avant de reprendre, la différence entre la vertu théologale et la vertu morale. C'est très important de bien saisir cela. Et en fonction du mystère même de la grâce, je vous disais qu'il y avait pratiquement dans la tradition occidentale de la théologie, c'est-à-dire la tradition latine, il y a deux grandes manières de considérer la grâce. Il y en a plusieurs, mais au fond, deux dominantes. Une qui prend l'analogie uniquement d'une nouvelle naissance, et l'autre qui prend l'analogie de la grâce accident, habitus, antitatif. Quand je prends la grâce nouvelle naissance, il y a un danger, c'est de regarder que la grâce uniquement, prenant uniquement l'aspect nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle nature, la grâce me divinise. Alors à ce moment-là, il y a le danger de ne plus regarder du tout le point de vue de la grâce inséré dans le point de vue de l'homme, et il y a une tendance vers l'illuminisme. Ceci a existé. Et puis l'autre tendance, c'est la tendance vers l'humanisme. Vous voyez tout de suite, on pourrait mettre des noms, hein, c'est facile à voir. L'illuminisme consiste à considérer que le rythme de la grâce étant entièrement divin, l'homme disparaît. On n'est plus que fils de Dieu, donc il y a uniquement l'illuminisme. Ça a été condamné au XIIe siècle. Hein. Et puis l'autre aspect qui n'a pas été condamné, sans dire toujours, c'est par le point de vue de la grâce uniquement un humanisme. Ce serait la tendance de Suarez. Et on est en plein dedans. Parce qu'au fond, de fait, vous savez bien, il y a eu une querelle entre dominicains et jésuites pendant 100 ans. Et alors cette querelle entre les deux a été tellement violente que Rome a demandé de se taire. Et alors évidemment, c'est la tendance humaniste qui l'a emporté. Et je crois qu'on est en plein humanisme de cette tendance-là, c'est-à-dire qu'on ne garde plus de la grâce que l'aspect, ce qui explique l'opposition et la violence des orthodoxes par rapport à la scolastique, parce que ordinairement, les orthodoxes ne connaissent de la scolastique que Suarez. Ça, faut bien se le rappeler, parce qu'ils ne connaissent pas saint Thomas du tout, mais ils connaissent Suarez, la scolastique. Et alors, l'aspect de la scolastique décadente par le point de vue d'habitus antitatif, vous voyez, les met en boule parce qu'au fond, ce n'est plus que l'homme. Ce n'est plus l'aspect de la déification. Il n'y a plus de déification dans cette perspective-là. C'est très net. Alors, c'est important de le comprendre. Alors, cette tendance-là n'est pas condamnée. Suarez n'a jamais été condamné par l'Église. Mais il faut bien vous dire que, par exemple, des dominicains comme le père Garrigou-Lagrange, quand il faisait le traité de la grâce, vous le savez, je ne l'ai pas écouté moi de mon côté, mais je savais qu'il faisait ça. Quand il faisait le traité de la grâce, il rappelait la théorie de saint Thomas, puis il rappelait la théorie de Suarez, il descendait de sa chair à ce moment-là pour pouvoir entrer en colère. Et il disait, je ne peux pas supporter cette théorie-là, c'est pas condamné par l'Église, mais vous voyez que ça aboutit à ce qu'on a appelé le surnaturel quad modum. C'est-à-dire, à la place de regarder le surnaturel substantiel, on n'a plus regardé que le surnaturel quad modum. Alors, ce surnaturel quam motum consiste tout simplement à dire la grâce perfectionne la nature et permet à l'homme d'être parfait. Oui, position apologétique. Et non plus humaniste. Et non plus voir que la grâce apporte en elle-même une nouvelle nature et donc une nouvelle vie divine. Voyez. Alors, entre les deux, je crois qu'il faut mettre la position de saint Thomas. Et la position de saint Thomas consiste toujours à maintenir la double analogie, nouvelle nature, mais en même temps, habitus entitatif. Il faut les deux. C'est la position que je crois dominante entre les deux. La grâce, c'est très vrai, n'est pas en opposition, le surnaturel n'est pas contre la nature. Vous voyez, quand je prends ce surnaturel contre la nature, on risque toujours de faire un petit peu comme Luther. De dire l'homme, à cause du péché, est mauvais. Et donc, il n'y a plus que la grâce. Vous voyez ? C'est le succès d'année de l'illuminisme, ça, Luther. C'est le succès d'année. Ça existait avant Luther. Hein. Luther n'a rien inventé là-dessus. Ça existait avant. C'est la position qu'on dirait mystique, si vous voulez, mais un peu fausse mystique, pas la vraie mystique. Un peu fausse mystique qui ferait uniquement le point de vue de dire l'homme est pécheur, parce que l'homme est pécheur, la grâce seule peut le sanctifier. La grâce seule peut le transformer. Alors, ces positions, donc, ont existé, elles existent toujours un peu. Hein. C'est forcé. Alors, il y a une répercussion par rapport à la théologie des vertus théologales. Puisque les vertus théologales proviennent de la grâce, foi, espérance, charité, ça provient de la grâce. La conception que vous avez de la grâce au point de vue théologique va vous donner une conception, une manière de voir des vertus théologales. C'est bien évident. Il y a une répercussion. Ça ne peut pas être autrement, puisque les vertus théologales émanent de la grâce. Alors vous avez deux visions particulières, extrêmes, l'illuminisme et l'humanisme. Et la position que je crois est saine, qui est la grande tradition de l'Église, parce qu'il faut le dire, quoi. Saint Thomas est quand même le docteur commun, et il est docteur commun à cause de ça. C'est pas pour les autres points de vue, c'est à cause de ça, c'est par rapport à la grâce. C'est par rapport à l'ordre de la nature et de la grâce que Saint Thomas est un docteur commun, parce qu'il essaie de maintenir une position qui, je crois, est vraiment celle de l'Écriture. Mais c'est les deux aspects tout le temps. Le Christ vient sauver l'homme et sauver dans l'homme l'image de Dieu. L'homme n'est pas totalement corrompu par le péché. Il vient sauver l'image de Dieu. Mais en même temps, il le déifie. Il le divinise. Il lui donne une déification. Alors, il y a toujours les deux. Vous voyez ? Alors, dans la perspective de l'illuminisme, les vertus théologales seules peuvent atteindre la vérité. Vous voyez, dernière position après Luther de Karl Barth, par exemple. Karl Barth disant, toute théologie est condamnable parce que la théologie implique une coopération entre l'intelligence et la foi. Or, l'intelligence est corrompue par le péché, donc l'analogie que l'intelligence nous sert, c'est le diable. Alors, c'est très nettement une position d'illuminisme. Comme si on pouvait poser un acte de foi indépendant de l'intelligence. Oui, une foi pure, une espérance pure, une charité pure, indépendant de l'intelligence et la volonté. Ça, c'est la position de Luther, et je vous dis, quand vous voyez la position de Karl Barth, c'est au fond la même position. Alors, poussée à l'extrême, mais au fond, c'est la même position. C'est dans la position de l'illuminisme, hein, il faut bien comprendre. Hein, c'est la foi seule qui sauve et l'intelligence est faussée. La volonté est faussée à cause du péché, donc seule l'espérance. Comme si on pouvait poser un acte de foi, d'espérance et de charité sans le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle nature. Quoi. Et l'homme est pécheur. Alors l'autre position qui est celle de Suarez, et qui continue... Hein, qui continue dans des quantités de traités de théologie. La position de Suarez consiste à dire la foi vient surnaturaliser l'intelligence, mais la foi ne donne pas un nouvel objet. Il n'y a pas une nouvelle connaissance substantielle. J'ai uniquement une connaissance qui est divinisée, qui est surnaturalisée, mais qui est uniquement méritoire. Alors c'est toute la grande question du mérite. Mais dans cette position-là, vous voyez, la contemplation devient quelque chose d'extraordinaire. La contemplation n'est pas normale. C'est réservé à quelques âmes d'élite, la manière de Sainte Thérèse, Saint François, Saint Jean de la Croix, c'est réservé à quelques-uns. Les autres, non. Ce qu'on leur demande, c'est le devoir d'État. Alors, c'est la vie religieuse basée sur le devoir d'État. Et la contemplation, l'oraison deviendra la méditation, et au fond, le point de vue de la foi deviendra adhérer à la parole de Dieu. Et ce ne sera plus la vérité divine se révélant à nous. Ils feront la même chose pour l'espérance et la même chose pour la charité. Très curieux. On a devant ce qu'on appelle le surnaturel quod modum, c'est-à-dire c'est uniquement un mode particulier, nouveau dans l'ordre de l'exercice de l'intelligence surnaturalisée par la foi, de la volonté surnaturalisée par l'espérance et la charité. Mais il n'y a pas d'objet nouveau. La foi ne me donne pas un objet nouveau, la charité n'a pas un objet nouveau. Alors, que pour saint Thomas, ça c'est intéressant parce que je crois que c'est la vérité, n'est-ce pas ? Pour saint Thomas, la foi vient surnaturaliser l'intelligence. L'intelligence n'est pas mauvaise en elle-même. Mais mon intelligence souvent est encombrée d'une quantité d'erreurs parce qu'à cause et conséquence du péché, je suis paresseux. C'est bien évident, nous avons tous été paresseux. Si nous n'avions pas été paresseux, nous serions encore un peu plus intelligents que nous sommes maintenant. Alors, nous avons été paresseux. Et alors, la vie monastique enlève la paresse. Hein, et donc, redonne le courage de rechercher la vérité. Et alors, nous avons été paresseux, et par le fait même, notre intelligence est encombrée d'une quantité d'erreurs. C'est très vrai que l'intelligence est encombrée d'une quantité d'erreurs, mais l'intelligence en elle-même n'est pas touchée par le péché. Par le fait même, la foi vient rendre à l'intelligence sa vigueur et permet à l'intelligence d'aller plus loin qu'elle ne peut aller. Il y a un objet propre de la foi, l'objet formel de la foi, la ratio formalis objecti, comme dit saint Thomas, la raison formelle de l'objet de la foi, c'est la vérité première. La vérité première se révélant. Donc c'est Dieu me parlant. Alors vous voyez que l'objet formel de la foi n'est pas la parole de Dieu, mais la source de la parole de Dieu. Et ça, je crois que c'est très important. C'est la source de la parole de Dieu. Je me sers de la parole de Dieu pour atteindre, dans un acte de foi, la vérité première se révélant à moi. Donc c'est Dieu lui-même que j'atteins. Les vertus théologales me font atteindre directement Dieu. Et c'est en ce sens-là que les vertus théologales me donnent un objet nouveau. Et si les vertus théologales regardent directement Dieu, les vertus théologales réclament la contemplation. De sorte que la contemplation, dans cette perspective, devient le régime normal des vertus théologales. Et non pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez ? Et c'est par rapport à la foi qu'on le voit mieux, hein. Alors, à propos de l'espérance, c'est la même chose. L'espérance me fait adhérer directement à la toute-puissance du Père miséricordieux. C'est Dieu qui me promet de faire que sa béatitude, son bonheur, soit mon bonheur. Et donc, je m'appuie directement sur la toute-puissance miséricordieuse du Père pour atteindre ma béatitude. Et ma béatitude, c'est celle de Dieu. Je n'ai pas deux béatitudes différentes, c'est la béatitude même de Dieu qui m'est promise. C'est ça l'espérance. C'est Dieu me béatifiant. C'est Dieu se communiquant à moi d'une manière telle que l'héritage du Christ est mon héritage. L'héritage du Christ, c'est l'héritage du Fils bien-aimé. Il n'y a pas deux héritages différents. Et la charité regarde directement Dieu qui sème et qui s'aimant m'aime. C'est l'amour même de Dieu qui est l'objet de la charité. Dieu, amour, l'amour substantiel de Dieu. Donc Dieu s'aimant. Dieu s'aimant et me communiquant son amour. Oui. Donc les vertus théologales ont directement Dieu comme objet sous trois aspects différents. Dieu lumière, c'est-à-dire Dieu vérité, Dieu béatitude et Dieu amour. La béatitude de Dieu qui m'est communiquée, qui m'est donnée. Alors, évidemment, la foi et l'espérance ont quelque chose dans leur modalité particulière, ont une modalité moins directe que la charité. Parce que justement, c'est dans l'obscurité de la foi et c'est dans l'espérance que j'adhère à la béatitude. Cette béatitude, je ne la vis pas tout de suite. Je la vis déjà, mais elle n'est pas parfaite. La lumière de Dieu m'est donnée dans l'obscurité de la foi. Tandis que la charité m'est communiquée pleinement et immédiatement. C'est pour ça que la charité seule est céleste, si vous voulez. La charité seule me fait entrer vraiment dans le mystère de Dieu, tel que Dieu le vit. Et c'est pour ça que c'est par la charité que la foi et l'espérance sont contemplatives. La foi par elle-même ne serait pas contemplative. C'est pour ça qu'une foi qui n'est plus informée par la charité n'est plus contemplative. Une espérance qui n'est plus informée par la charité n'est pas non plus contemplative. Mais c'est une foi informée par la charité et une espérance informée par la charité qui réclame la contemplation. Voyez ? Alors c'est ça qui est important à voir, c'est que les trois grandes conceptions, on peut dire, les trois grandes manières, les trois grandes théologies de la grâce impliquent les trois grandes théologies de la foi, d'espérance et de la charité. Alors, une est condamnée par l'Église, l'illuminisme, et Luther est condamné par l'Église. L'autre, l'humanisme, n'est pas condamné. Je ne dis pas qu'il est condamnable, hein, faisons attention. Je ne vais pas plus loin, mais je dis que c'est quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. Dire que la grâce perfectionne la nature, c'est bien vrai, mais ce n'est pas le rôle premier de la grâce. La grâce me fait premièrement enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je serai plus parfaitement image de Dieu. Mais le rôle de la grâce n'est pas premièrement de me rendre parfait. On en a l'expérience tous les jours. C'est bien évident. La grâce ne me rend pas premièrement parfait. La grâce me fait enfant de Dieu et je vois d'autant plus mes misères. Et alors je lutte contre mes misères pour être plus parfaitement enfant de Dieu. Mais ce n'est pas la première chose que je cherche, c'est d'être un homme parfait. Ce n'est pas ça que je cherche en premier lieu. Et si vous cherchiez, vous, en premier lieu, d'être une femme parfaite en entrant au noviciat, ce serait catastrophique. Ça, c'est bien évident. Ce n'est pas ça qu'on cherche en premier lieu. On cherche en premier lieu d'être enfant de Dieu, de vivre la vie divine. Vous voyez, ça fait deux spiritualités tout à fait différentes. Parce que d'un côté, c'est la contemplation, et on insiste sur le fait qu'on est immédiatement relié à Dieu par les vertus théologales, tandis que de l'autre côté, on dit d'abord acquérir les vertus, puis on verra après. Alors il y a d'immenses conséquences au point de vue apostolique. Oui, au point de vue apostolique, c'est très très net, c'est une immense conséquence. Jésus est venu pour les pauvres. Il donne sa grâce, même aux pécheurs. Il ne dit pas aux pécheurs, d'abord, hein, il faut d'abord devenir parfait selon la loi, puis on verra après. Non, il donne la grâce même au pécheur, il convertit le pécheur. Et le pécheur essaie de devenir ensuite un homme moral. Ça ne supprime pas le point de vue de la morale, mais ça l'assume. Et on regarde d'abord les vertus théologales. Oui. Je crois que ça, c'est très important. Il est évident que, vous voyez, du côté de l'Orient, je crois qu'on retrouverait, vous savez, du côté de l'Orient aussi les mêmes tendances. Hein, parce qu'il faut, quand on connaît très bien de l'intérieur, on voit mieux les différents aspects. J'ai essayé dans les conversations que je pouvais avoir avec des théologiens orthodoxes de leur demander si chez eux il n'y avait pas les deux tendances. Ils m'ont dit exactement, il y a toujours les deux tendances. Mais alors c'est moins systématique, parce que le latin systématise plus. Mais je crois que c'est la même chose. Chez les protestants, on trouvera les deux tendances aussi. Hein. Dans mes dialogues que j'ai eu avec les protestants, j'ai toujours trouvé les deux tendances. Toujours. C'est forcé. C'est normal, ça, parce qu'on revient à l'évangile et on lit l'évangile selon deux manières différentes, parce qu'on a toujours la petite théologie. On ne peut pas ne pas avoir cette théologie. Alors on lit l'évangile de deux manières différentes, où on insiste sur le renouveau complet par le point de vue des vertus théologales et de la grâce, en voyant qu'ensuite on est assumé, ou on regarde d'abord Jésus qui vient nous apporter la perfection de l'homme. Alors, il n'y a pas de question, je peux continuer. Nous allons maintenant continuer la question 23. Alors, je reprends avec vous pour que vous soyez... Oh, je vais aller très vite, hein, parce qu'autrement, on va me dire que je piétine. Alors, nous regardons d'abord, en premier lieu, ce qu'est la charité. Puisque c'est la première chose qu'on regarde. Puis après, on regardera son objet. Alors, on regarde la charité en elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la charité, tout simplement. Alors, on ne peut pas savoir ce que c'est que la charité, hein, faut pas l'oublier. On ne peut pas savoir ce que c'est que la charité, parce que la charité est un mystère. Si je savais ce que c'était que la charité, si je savais ce que c'était que la charité en elle-même, j'aurais la vision de Dieu. Comprendre la charité, c'est comprendre Dieu. Donc je ne peux pas savoir ce qu'est la charité. Je saisis le comment de la charité. Ce que la charité... Le comment de la charité, comment la charité s'empare de moi. Alors, la première chose, c'est de voir comment la charité est une amitié. Je vous l'avais dit, c'est très très important de bien comprendre cette première analogie que saint Thomas prend, cette première analogie, de voir que, de fait, pour bien saisir ce qu'est la charité, je prends l'analogie de l'amour d'amitié. Qui a été très très combattu par l'Igresse. N'est-ce pas ? Il y a déjà quelques années et ça demeure. Alors, première analogie, c'est de comprendre que la charité, carita, c'est l'agapé, est une amitié. Quand je dis ça, je montre que Dieu, en communiquant son amour, réclame de moi une réponse. Et c'est pour bien faire comprendre que, puisque le propre de l'amitié, ça implique un amour réciproque. Un amour mutuel. Il y a une réciprocité. L'aller et le retour. Hein. Alors, il faut comprendre que Dieu est celui qui m'aime en premier lieu, c'est lui qui m'aime en premier lieu, c'est lui qui me donne cet amour, qui me donne ce point de vue de ce nouvel amour, cet amour divin. Il me le communique comme un don, si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est ça. Et quand Jésus dit ça, si tu savais le don de Dieu, c'est vraiment la charité. Oui, Nicodème, c'est la grâce, et à la Samaritaine, c'est la charité. Je crois qu'on peut dire ça. Parce que le langage de Jésus vis-à-vis de la Samaritaine, c'est nettement le don de Dieu, c'est nettement le point de vue de la charité. Tandis qu'avec Nicodème, c'est nettement le point de vue de la grâce. Il y a les deux enseignements différents. C'est normal. D'abord la grâce, puis la charité. Alors, le don de Dieu qui est le don de l'eau vive. C'est l'eau vive. Et la charité, c'est l'eau vive. C'est Dieu qui donne cette capacité nouvelle d'aimer. Il donne son amour pour me réveiller et me permettre ensuite de répondre. Donc c'est un don gratuit, mais ce don gratuit appelle ma réponse. Et c'est parce que ce don gratuit appelle ma réponse que je peux dire que la grâce, que la charité est vraiment un amour d'amitié. Alors, je ne reprends pas l'article de saint Thomas, c'est pas la peine, nous allons voir tout de suite. Deuxièmement, la charité est quelque chose de créé dans l'âme. Alors là, ça relève tout un aspect très important, qui est encore très important et très actuel, de voir que la charité est vraiment quelque chose dans l'âme. Donc cet amour, ce don, est vraiment un don reçu. Il est reçu dans mon âme, c'est-à-dire, on va voir, dans ma volonté, dans mon cœur. Cet amour est reçu en moi. Donc, il est quelque chose de créé. Alors là, il faut bien comprendre que saint Thomas est en face d'une tradition orientale qui, de fait, dit que la grâce n'est pas quelque chose de créé. Parce que la, qui dit que, je veux dire, que la charité n'est pas quelque chose de créé. Que la charité, c'est l'amour de Dieu qui m'est communiqué et qui m'est pleinement communiqué. Et cet amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Ça a été soutenu, donc voyez bien, ça a été soutenu dans l'Église latine au Xe siècle et XIe siècle, au moment où, de fait, il n'y avait pas de distinction entre la théologie orientale et la théologie occidentale. Il n'y avait aucune distinction entre les deux. La théologie orientale et occidentale s'est séparée à partir de la séparation de l'Orient. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a vraiment une théologie occidentale et une théologie orientale qui s'est développée. Avant, non. Avant, il y a un mélange des deux. Je vous dis, au cœur même de l'Église latine, on disait que la charité, c'était l'Esprit Saint. Ce qu'aujourd'hui, très facilement, on aime de dire, la charité, c'est l'Esprit Saint. Alors, saint Thomas précise, non, on ne peut pas dire que la charité, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que, si c'était l'Esprit Saint, je ne pourrais pas aimer moi-même Dieu. Je serais dans la condition d'un pur instrument. Mais la motion qui me pousserait vers Dieu serait Dieu lui-même qui s'emparerait de moi et moi, je me laisserais porter. Alors, saint Thomas dit non parce que entre Dieu et nous, il va s'établir une alliance d'amitié. L'alliance est une alliance entre l'époux et l'épouse. Et ça, c'est dans l'Écriture, on ne peut pas nier. Dans toute l'Écriture, on voit que l'alliance est une alliance de l'époux et de l'épouse. Si c'est alliance de l'époux et de l'épouse, il faut donc que l'époux prend l'initiative, mais qu'il y ait la réponse de l'épouse. Il faut que l'épouse réponde, autrement, ce n'est pas une alliance de l'époux et de l'épouse. Ce n'est pas l'instrument, ce n'est pas une alliance avec Dieu qui fait tout, et puis nous qui ne faisons rien. Ce serait contraire à tout ce qui est révélé. Donc, si l'alliance est une alliance d'amitié entre amis, une alliance entre père et l'enfant, entre l'époux et l'épouse, il faut que nous soyons capables de répondre. Et c'est Dieu qui donne cette capacité de répondre. Parce que l'amour qu'il met en nous est quelque chose de reçu. Quelque chose qui vient ennoblir mon cœur. Et permettre à mon cœur de répondre divinement, avec un amour divin. Cet amour vient de Dieu, mais cet amour doit retourner vers Dieu, et pour retourner vers Dieu, il doit retourner librement vers Dieu. Autrement, ce n'est plus un amour, si c'est un amour forcé. Or, si je ne vois pas qu'il y a quelque chose de créé en moi, je ne comprendrai plus comment cet amour peut être libre. Et donc, je ne comprendrai pas comment c'est l'alliance de l'époux et de l'épouse, l'alliance des amis. Vous voyez, c'est très important, cette question-là, parce que immédiatement, si on ne voit pas cela, eh bien, je crois qu'on ne peut plus comprendre vraiment ce qui nous est donné dans l'Écriture, l'alliance de l'époux et de l'épouse. Vous voyez, c'est donc quelque chose de créé dans l'âme. Mais évidemment, à première vue, il faut bien voir, à première vue, ça semble beaucoup plus parfait de dire que la charité, c'est l'Esprit Saint. Ça semble beaucoup plus divin. La charité, c'est l'Esprit Saint. Oui, à première vue, ça semble plus parfait. Mais en réalité, c'est moins parfait. Parce que, en réalité, si je dis que c'est l'Esprit Saint, alors, quel est mon rôle? C'est uniquement de recevoir l'Esprit Saint, de laisser l'Esprit Saint tout faire. Et donc, il n'y a pas de véritable alliance d'amis et d'amis. Il n'y a pas véritable alliance de l'époux et de l'épouse. L'épouse, ce n'est pas seulement celle qui reçoit tout, c'est celle qui répond. L'ami, ce n'est pas seulement celui qui reçoit tout, c'est celui qui répond. Et qui répond librement. Autrement, c'est ni un ami, ni une épouse. Et donc, si on ne voit pas que l'amour communiqué à l'homme est quelque chose de créé dans l'âme de l'homme, dans la volonté de l'homme, je ne peux plus comprendre la réponse libre. Et donc, quelque chose de l'Écriture échappe à ce que je peux préciser. Alors nous étions restés à la troisième question, troisième article. Donc, la charité est-elle une vertu? Alors, vous voyez, on va toujours en précisant. Hein. Deux, c'est quelque chose de reçu. Trois, ce quelque chose de reçu est une vertu, c'est-à-dire un habitus. Et on va le voir. Un habitus, une vertu dialogale. Et alors, c'est ça qui est important à souligner, c'est que de fait, je vais avoir ici une nouvelle analogie. J'ai cette première analogie, l'amitié, et la seconde analogie, la vertu. Or, de fait, l'amitié, philosophiquement parlant, n'est pas une vertu, mais le fruit d'une vertu. Donc là aussi, je suis obligé de comprendre que je me sers de deux analogies qui, au point de vue philosophique, ne sont jamais liées, mais qui, au point de vue théologique, peuvent s'unir et me donner un double éclairage sur le...